Martino. Le préféré du règne animal. Bonjour, les petits lapins.
Petit lapin, petit lapin. Plus de 80 tentes sur le campement pro-palestinien, là, sur le campus de l'Université McGill. Hein, ces jeunes-là, ils ont vu là, ce qui se passait aux États-Unis. Ils ont dit, ah, nous autres ici, on va se lancer là-dedans. Puis là, ils se sont barricadés, puis il y a des clôtures, puis ils sont masqués, puis tout ça. Là, il va y avoir une injonction parce que la direction de l'Université McGill, ils sont vraiment tannés d'entendre des ententes scandées à des slogans antisémites. Là, il va y avoir une injonction, mais eux autres, ils disent, on veut pas partir, puis on partira pas. On s'en fout. Fait qu'on fait quoi? On envoie la police là-dedans. Qu'est-ce qu'on fait quand l'injonction n'est pas respectée? On a Stéphane Wall ici, superviseur retraité du SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force. Stéphane, bonjour.
Bon matin, Richard.
On fait quoi? Et c'est ça qu'ils veulent, eux autres, se confronter avec la police, j'imagine. Là. Ils attendent la police, puis là, la police va leur varger dessus, puis eux autres vont être contents, en disant, regardez, ils m'ont frappé, puis là. Et on fait quoi dans ce temps-là, Stéphane?
Ben à la base, on l'a vu dans les dernières journées là, c'est sûr que la direction universitaire tente par tous les moyens pacifiques là de résoudre la crise, d'essayer de trouver des compromis avec les leaders du mouvement. Donc ça fait partie des premières démarches. Maintenant, lorsqu'ils arrivent dans un cul-de-sac, les directions peuvent toujours demander une injonction provisoire.
Oui.
Les policiers, eux autres, pendant ces démarches-là, ben ils se préparent parce qu'ils savent que, bon, tu t'en as parlé tantôt, il y a des personnes radicales dans ces mouvements-là. Oui. Donc, les policiers se préparent éventuellement pour faire une intervention. Mais à la base, ils doivent avoir un motif légal d'intervenir et ça va être l'injonction qui va peut-être être accordé aujourd'hui.
Là. OK, parce que si, mettons, l'injonction est accordée, puis eux autres ne respectent pas l'injonction, là, ils ont soudainement le droit, les policiers, de débarquer sur le campus.
Oui, là, présentement, ils font une présence là, depuis quelques jours là, autour du site. Ils parlent avec les organisateurs. Ils leur expliquent qu'il faut qu'ils restent dans certains paramètres. Il ne faut pas que ça ait de débordement ou de violence, par exemple. Donc, on est plus des mesures préventives. Mais maintenant, si l'université, c'est ses terrains à elle, si elle réussit à avoir un document juridique accordé par un juge qui ordonne l'expulsion des gens de son terrain, de terrain privé, ben les policiers vont être en mode stratégie. Comment on va faire le démantèlement le plus possible dans l'ordre? Mais effectivement, comme tu l'as mentionné en début d'entrevue, ça se peut que certaines personnes opposent une certaine résistance. Et ça, les policiers sont prêts à ça.
Ouais, mais en même temps, Stéphane, on s'en parle souvent là, quand t'es à l'émission, on s'en parle là, à Montréal. Tu sais, les policiers se sentent très surveillés. Hein, puis s'ils utilisent trop une force qu'on juge trop grande, on va dire ah les maudits policiers. Puis tout ça, d'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a plein de recrues qui veulent pas travailler à Montréal parce qu'ils ont l'impression à Montréal ils sont tout le temps surveillés, ils peuvent se retrouver devant le comité d'éthique, ils doivent lutter contre le crime, une main attachée dans le dos, tout ça. Fait que c'est pas agréable pour les policiers de rentrer sur un campus avec des jeunes de 20 ans devant toi, là. Puis là, t'es obligé de sortir ta matraque, là. T'sais, c'est sûr que le lendemain, dans les journaux, là, ça va être quoi, les photos, tu penses? Ça va être les méchantes polices, là, qui frappent sur des pauvres jeunes étudiants?
Ben, c'est sûr que c'est pas agréable, mais ça fait partie du travail. Et si les policiers sont justifiés légalement de le faire, ils vont le faire. Il y a des groupes d'intervention qui sont spécialisés, des sections d'intervention, qui sont là justement, qui ont des techniques pour aller arrêter et menotter individuellement chacune des personnes, une par une, s'il le faut. Si ça dégénère puis qu'on doit utiliser une force plus grande, ben oui, effectivement, il peut y avoir soit des bâtons, soit des gaz des gaz irritants qui pourraient être lancés dans la foule. Mais là, on est plus loin là dans le processus. Normalement, ça va être par persuasion, une personne à la fois. Et il y a tout un mécanisme de logistique qui est en arrière de ça. Donc, chaque va être arrêté, va être amené dans probablement un autobus ou un centre de détention provisoire pour être identifié formellement. Peut-être avoir soit une citation, une promesse de comparaître, soit un constat d'infraction pour peu importe le prix qui va avoir été fait. Et après ça, ces personnes-là sont remises en liberté, normalement, s'il n'y a pas de risque de récidive. Et une fois que toutes les personnes vont avoir été évacuées, l'équipement, les tentes, tout ce qui est là, va être ramassé conjointement, soit par l'université, soit par la ville, parce que ces équipements-là vont être remis éventuellement aux possesseurs de ces équipements-là. Donc, ils ne sont pas détruits. Donc, il y a une grosse logistique d'enquête qui est autour de ça. Puis les policiers, s'ils sont justifiés légalement de le faire, ils vont le faire avec avec célérité puis avec toute la permission là, que le juge leur accorde.
Ce qui complique l'affaire aussi, c'est que officiellement, ce sont des étudiants, mais t'sais, on va se parler franchement, toi puis moi, là. Officieusement, c'est des groupes très organisés, subventionnés, financés, qui sont derrière ça. Il y a des gens qui sont dans les temples, qui sont même pas étudiants à McGill, là, absolument pas, là. Donc, c'est des gens qui veulent se coltailler à la police, là. T'étais spécialisé en usage judicieux de la force. C'est quoi les étapes? Premièrement, t'arrives, t'essaies de parler aux gens, ils vont vouloir rien savoir, t'essaies de les menotter, quoi, puis après ça, ça peut-tu aller jusqu'à sortir de la matraque puis commencer à cogner dans le tas?
Ben, tout est possible dans la gradation. Dans le modèle national en emploi de la force, tout est possible quand on parle de maintien de l'ordre. Maintenant, ta prémisse est excellente dans le sens qu'effectivement, dans tous ces mouvements d'occupation-là, si on pense Occupons Montréal, les différentes occupations qu'ils ont eues à travers les années, il y a toujours des personnes radicales qui font partie des groupes extrémistes, qui font partie du noyau dur de ces manifestations-là. Donc, ils ont toujours des arrière-pensées sur pourquoi on va mobiliser des gens pour faire des manifestations. Là, le prétexte, présentement, c'est la guerre Israël-Gaza, mais c'est toujours il y a toujours une mouvance radicale qui est en arrière de ces mouvements-là, effectivement, qui est financée. Et au service de police, on a une section de renseignement, une section de planification opérationnelle, qui écoute, qui étudie, qui regarde un peu par différentes sources dans ces milieux-là, jusqu'à quel point ils sont prêts à aller. Parce qu'il y a des personnes qui sont prêtes à utiliser la radicalisation, qui sont dans la radicalisation violente, qui sont prêtes à provoquer justement pour en quelque sorte se victimiser puis faire des images
ben
comme
oui.
Quoi, donc c'est donc ça fait toujours partie de ces mouvements radicaux-là, soit de l'extrême gauche, soit de l'extrême droite, de passer pour des victimes. Donc les policiers vont y aller de manière systématique, graduelle. Donc, avec l'utilisation probablement de la parole, la présence policière, après ça, des arrestations individualisées. Et malheureusement, ils vont peut-être avoir un noyau dur qui vont vouloir peut-être plus résister. Et là, ça se peut qu'il y ait plus d'emploi de la force, des gaz qui soient utilisés.
Écoute, depuis quelques années, Stéphane, j'imagine les policiers le voient sur le terrain. Là, il y a vraiment comme un mouvement de radicalisation là, de certains jeunes. Soit tu le dis, là, extrême droite et extrême gauche, les deux. Là, c'est pas évident d'y aller avec ça là, quand t'es policier. Parce qu'en même temps, les gens ont le droit de manifester. C'est ça, là, jusqu'où on trace la ligne. Là, qu'est-ce qui est acceptable, qu'est-ce qui ne l'est pas.
Tout à fait. Le droit de manifester, c'est un droit qui est inscrit dans nos chartes. Le problème, c'est lorsqu'on incite à la haine. Le problème, c'est lorsqu'on fait des actes de violence, qu'on fait des menaces, qu'on est dans les méfaits, dans les agressions physiques, dans la haine, inciter à la haine des gens envers des individus ou des communautés. Là, au niveau du code criminel, on a des leviers pour agir. Et maintenant, comme on a pu le voir là, au début de la guerre, il y a eu certaines manifestations. Tenir des enquêtes d'incitation à la haine, c'est long, c'est pas facile. Ça prend énormément de leviers puis d'enquêtes approfondies et ça ne se fait pas en claquant des doigts. Mais effectivement, il faut être capable de passer le message comme démocratie, comme institution, de dire ben on n'accepte pas ces débordements-là. On accepte les manifestations légitimes, on peut pas accepter de la violence et l'incitation à la haine.
Le point tournant, c'était vraiment à Québec. Là, il y a plusieurs années de ça, là, il y avait eu une grosse une rencontre de leaders internationaux, etc. Puis là, il y avait plein de jeunes radicaux qui se sont ramassés à Québec. Et là, écoute, il y a des jeunes qui lançaient des balles de billard. On se souvient de ça, des boules de billard sur les policiers. Les policiers répliquaient. Là, évidemment, qu'est-ce que tu veux dans ce genre de rixe-là? C'est certain qu'il y a des jeunes qui sont blessés à un moment donné. Là, c'est photographie, blablabla, brutalité policière. J'imagine que les policiers ont appris aussi maintenant à peut-être affiner leur méthode, parce que ça, c'était la première grande confrontation avec des groupes radicaux là, au Québec. Là.
En fait, il y en a eu plusieurs dans l'histoire, mais une chose est certaine, c'est que oui, l'utilisation de la force par les policiers, ça sera jamais beau cosmétiquement. Ouais. De voir un policier frapper avec un coup de bâton ou lancer du poivre, asperger de poivre de Cayenne ou de gaz irritant à une foule, c'est jamais beau. Ça, c'est certain. Mais maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est que les policiers, c'est un peu les chiens de garde, justement, de la société, de faire en sorte qu'il va y avoir une certaine limite qui ne sera pas dépassée. Malheureusement, il y a toujours une minorité de personnes radicales qui sont là, qui ont des motivations, qui sont idéologiques, qui, elles, sont prêtes à s'en prendre aux policiers, à blesser et même à tuer des policiers, puis que c'est valorisé de le faire.
Ben oui.
Parce que s'en prendre aux policiers, c'est s'en prendre à l'État. Parce que les policiers défendent l'État, défendent le droit. Donc, si on veut faire tomber un système à laquelle on veut pas adhérer, ben on va s'en prendre aux policiers qui sont devant eux. Et ça donne toujours des belles images pour eux au niveau de leur propagande, de dire voilà, on est ostracisés par le système policier.
Les gardiens du capitalisme, les gardiens de la bourgeoisie, exact. Etc. Là, puis eux autres, là, ils sont prêts à se faire taper dessus. La police tue. Puis regardez, c'est la preuve qu'il faut défendre la police, il faut leur envoyer moins d'argent parce que c'est des brutes, etc. Eux autres, ils ont tout intérêt à se faire taper dessus. C'est ça qu'ils rêvent. Là. Ils rêvent, là. Donne-moi un coup de matraque, ça va faire une très belle photo. Puis d'ailleurs, hein, dans ces groupes-là, il y a tout le temps des gens qui filment. Hein. Ils sont tout le temps en train de filmer, là, puis tout ça, puis mettre ça sur les réseaux sociaux. Ouais. Ils vont enlever ce qui s'est passé avant, ils vont enlever ce qui s'est passé après, ils vont mettre rien que le coup de matraque, puis le sang qui pisse. Puis là, pas évident pour des policiers, après ça, de s'en sortir bien, là, au point de vue de l'image, là.
Mais la majorité de la population va appuyer les policiers dans ces cas-là. C'est vraiment une petite minorité, 5-6% là, des gens qui vont prendre pour les manifestants radicaux ou violents. La population en général va appuyer les policiers, puis on sait il est temps qu'ils passent à l'action.
En tout cas, écoute, quelque chose me dit qu'on n'est pas sorti du bois, parce que si effectivement, premièrement, l'injonction est acceptée, puis après ça, les policiers arrivent, peut-être que vous allez vider le campus de McGill, mais ça va être partie remise après ça, là, parce qu'ils vont recommencer. Là, c'est ça qu'ils veulent, eux autres. C'est leur passe-temps, c'est leur sport national. C'est de se battre contre des policiers comme ça. Là, fait que ça risque... vous allez avoir peut-être un printemps hyper occupé, là, mais il y a plein de policiers, tes confrères, tes camarades qui vont faire du temps supplémentaire puis vont pouvoir se payer une belle piscine à la fin de l'été. Comme c'était en 2012 avec les jeunes, les carrés rouges.
Oui, c'est ça. C'est des longues heures, c'est épuisant, mais bon, ils ont le sens du devoir. Des fois, ils aimeraient mieux aller dans leur piscine, justement, mais bon, l'actualité policière fait en sorte qu'ils doivent rester au travail.
Merci beaucoup, Stéphane Wall, superviseur retraité du SPVM, spécialisé en usage judicieux de la force. Merci beaucoup, bonne journée.